palla della difesa al Milan.
Buona partita, ma non ha visto,
l'après-match avec Jalal Bouzrara.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute première édition de l'après-match de la saison footballistique 2019-2020, la saison radiophonique 2019-2020, une saison avec plein d'événements, plein de choses à raconter avec notre Dream Team. Et quoi de mieux pour commencer la saison, la première émission de la saison, que bien sûr les deux méga stars, les Ronaldo et Messi de cette émission. J'ai nommé pour Lionel Messi un certain Fred Hermel. Salut Fred.
Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. Ça fait quelque chose de vous retrouver, hein, les amis. Hein. Vraiment, hein, je suis très très heureux.
Je suis content parfois, la même chose.
D'avoir sur les réseaux sociaux des petits émails, des petits messages en disant Fred, on t'écoute, ou dans la rue, oh, on t'écoute, dans l'avant-match, dans l'après-match, etc. Une émission mondialement connue quand même maintenant.
Bien sûr, Fred. De toute façon, on a pris des consultants mondialement connus. Ça aide, et parmi ces consultants, un certain Hervé Penaud. Salut Hervé.
Bonjour les amis, mais quel plaisir de vous voir, de vous réentendre. C'est comme si je vous voyais, tellement je me sens proche de vous. Vous m'avez manqué, voilà tout ce que je peux vous dire. Tous,
c'est vrai,
autant que vous êtes.
Toi aussi.
Un petit plus avec Jalal, parce que c'est le patron. Alors le patron, il manque toujours un peu plus que les autres, hein Fred?
Ça c'est sûr. Premier point de gagner.
De toute façon, c'est ma bosse, monseigneur.
De toute façon, ça sera, je vais te dire, un premier point de gagné pour Hervé Penaud face à Fred, puisque de toute façon, cette première partie d'émission, ça sera un peu le match dans l'après-match entre tous les deux. Il y a eu ce culebrón, comme on dit en espagnol, ce feuilleton, cet énorme feuilleton, ce très long feuilleton Neymar et son arrivée au FC Barcelone, son retour à la Liga. J'ai adoré le titre de ton journal, mon cher Hervé, c'est Queda, allusion bien entendu au fameux tweet il y a deux ans d'un certain Gérard Piqué. C'est Queda, mais c'est Queda à Madrid, à Paris, mais on ne sait pas pour combien de temps, puisque on parle déjà maintenant, les médias catalans commencent à parler de l'objectif 2020 pour le FC Barcelone. Ça fait rire mon cher
c'est Fred. Génial. Le marché n'est pas encore terminé, on sait qu'il va pas venir, il se projette déjà dans un an, c'est dire la déception. Mais si tu me permets, moi je vais te dire, Hervé, t'as pas eu de mal à gagner, tu sais pourquoi? Parce que dans le fond, le Barça n'a jamais vraiment voulu de Neymar. Ouais. Dans le fond, le PSG n'a jamais vraiment voulu que Neymar s'en aille.
Mmh. C'était le souhait du patron du FC Barcelone. Et tu sais comment il s'appelle, le patron du Barça?
Il s'appelle Messi. Et le FC Barcelone a vraiment...
Le FC Barcelone ne peut rien refuser, en tout cas à Messi. Donc ils ont tout fait.
Non mais tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont feuilletonné, parce que jamais, moi pourtant je suis un vieux journaliste maintenant, je n'ai vu des négociations, quand un club négocie pour l'arrivée d'un autre, on n'appelle pas des copains journalistes pour dire attention, il prend le vol d'Air France Barcelone-Paris à 9h, alors il y a Vidal, il y a secrétaire technique du Barça, il y a Oscar Gros, l'un des dirigeants, celui qui est la signature. Non mais le Barça en a fait des tonnes, a donné plein d'informations aux journalistes pour quelque part téléviser en direct les négociations pour bien montrer à Messi. T'as vu, hein, on fait tout ce qu'on peut pour qu'il vienne, ton copain. Hein. Ah, mais c'est pas possible, PSG veut pas. Ah, mais c'est pas de notre faute, hein, parce que nous, on a fait tout ce qu'on pouvait. Hein.
Mais en tout cas, à Paris, est-ce qu'on se réjouit aujourd'hui? Vous m'avez même pas laissé le temps de dérouler un petit peu le conducteur de cette émission et le sommaire. Mais de toute façon, on va la faire comme ça, cette toute première, à bâtons rompus, sur tous les sujets qui vous intéressent et notamment qui intéressent aussi beaucoup nos auditeurs à travers le monde, comme tu disais, mon cher Fred. Est-ce que aujourd'hui à Paris, comme on annonçait que Neymar partait, on annonçait aussi peut-être les probables échanges, Rakitic, Dembélé, maintenant Neymar, Sekeda, et on en fait quoi aujourd'hui?
Bah, on en fait que ça reste Neymar. C'est-à-dire que c'est quand même le meilleur joueur de l'équipe, l'un des meilleurs joueurs du monde. Alors c'est vrai qu'il y a un souci avec les supporters, parce que il faut pas oublier quand même que durant l'été, il a eu ses fameux propos sur le moment où il a vécu le truc le plus incroyable, l'émotion la plus incroyable, c'était la remontada. Alors imaginez bien que quand vous dites ça aux supporters parisiens, ça leur reste un peu en travers de la gorge. Et quand vous apprenez, sur la fin des négociations, qu'il est prêt a donné 20 millions d'euros pour pouvoir partir, vous vous rendez bien compte qu'il n'a pas envie de rester au PSG. Ça, c'est une certitude. Alors maintenant, il va falloir recoller les morceaux d'un puzzle effectivement assez compliqué. Maintenant, vous savez, moi, je pense que quand vous êtes un grand joueur comme lui, sa réponse, il devra la donner avec ses pieds. S'il fait des matchs exceptionnels, vous savez, le public, s'il vous fait gagner la Ligue des Champions, il oubliera un petit peu tout ce qui s'est passé cet été. Lui tentera, à sa manière, d'expliquer deux, trois choses. Pas tout de suite, il n'y a pas besoin de le faire maintenant, parce que s'il venait à s'excuser aujourd'hui de ce qui s'est passé, imaginez bien que les gens le prendraient vraiment pour un rigolo, hein, vu que jusqu'aux dernières minutes, il a voulu partir. Donc non. Qu'il reste dans son coin, mais surtout qu'il soit bon. Parce que la question, elle est là. C'est que si Neymar redevient le Neymar qu'on connaît, qu'on a connu même en championnat de France, là, vous savez, ça, il va vite terminer le débat, clore le débat, et puis on va voir le joueur qu'il est. Maintenant, il faut plus qu'il soit blessé. Espérons que sa blessure soit pas aussi grave que ça. Mais c'est vrai que l'histoire des négociations est un truc assez incroyable. Alors, peut-être que Fred a raison, peut-être que Barcelone ne voulait pas de lui, mais peut-être aussi qu'il voulait, parce que ils sont allés loin quand même, pour mettre la pression sur certains de leurs propres joueurs pour qu'ils viennent ici. Au Paris Saint-Germain, parce que si Dembélé, au final, avait accepté de venir au Paris Saint-Germain, mais si ça se trouve, Neymar serait aujourd'hui à Barcelone. C'est-à-dire que ça s'est quand même joué sur peu de choses. C'est pour ça que moi, l'histoire de fausses négociations, j'y crois quand même qu'à moitié, parce que je pense pas que les deux clubs seraient allés aussi loin dans les démarches, aussi loin dans les approches, pour arriver à un moment à se dire finalement c'était que du bluff. Je pense qu'il y avait un peu plus que du bluff, parce que, je vous le dis bien, si Dembélé était parti, Neymar serait parti.
C'est pas des fausses négociations. Ce sont des négociations où personne n'est allé à fond. Tu vois ce que je veux dire? Où le Barça n'a pas tout fait pour que ce soit possible. Où le PSG n'a pas, là j'en suis encore plus persuadé, n'a vraiment pas poussé Neymar dehors. Parce que si le PSG voulait se débarrasser de Neymar, c'est simple. Le Real a 155 millions d'euros en caisse. C'est-à-dire au 30 juin, quand ils ont clôturé les comptes, il y avait 155 millions de bénéfices nets, donc d'argent disponible. Plus Navas qui est parti, peut-être James Rodriguez. Le PSG, s'il voulait vendre, ce n'est pas le Real était une possibilité.
Oui, mais il y a aussi la volonté, Fred, permets-moi, il y a aussi la volonté du joueur. Et le joueur voulait pas.
C'est pas un problème.
Non,
voulait... C'est le père qui décide. Et le Real Madrid allait payer les 37 millions d'euros nets après impôts. Que Neymar touchait au PSG, chose qui n'aurait pas été le cas à Barcelone. Mais je pense vraiment, j'insiste là-dessus, et moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG, c'est que Leonardo a montré qu'il y avait une vraie autorité dans son club et que les joueurs ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Même quand tu t'appelles Neymar, bah, t'es obligé de respecter ton contrat si le PSG n'a pas envie que tu partes.
Mais c'est en termes d'image, ça aurait pu être aussi, effectivement, Fred et Hervé, ça aurait été un petit peu... catastrophique pour l'image de cette équipe du Paris Saint-Germain. On sait que cette équipe a du mal à s'imposer comme un véritable ténor, même si elle en a les moyens aujourd'hui du football européen. Avoir ta grande star, ta méga star qui n'a qu'une envie, c'est de quitter le navire, ça aurait un peu eu un effet néfaste sur cette progression du Paris Saint-Germain. Et là, il faut rendre un énorme hommage aussi à Leonardo qui s'est imposé. On va parler aussi de cette journée d'aujourd'hui, la dernière du mercato en Europe. Leonardo s'impose aujourd'hui comme le véritable patron, permettant même au président Nasser Al-Khelaifi d'être un petit peu en retrait.
Tout à fait. Ça, c'est, il est certain qu'aujourd'hui, il s'est imposé. Et puis là, sur la fin des négociations, il s'est bien rendu compte que c'était l'homme fort. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut surtout pas oublier Doha. Parce que c'est du côté des grands patrons qu'il a été décidé que Neymar pourrait partir, mais à une certaine somme. Il n'était pas question de brader Neymar. Parce que là, ça aurait été un pied de nez au Paris Saint-Germain. Et on en avait discuté lors des dernières émissions de l'année. Moi, je disais,
et au projet, pas, au projet
en général.
Parce qu'ils
en avaient fait une tête de pont. Oui, bien sûr. Mais ils en avaient fait une tête de pont de leur projet. Donc, c'est compliqué de pouvoir partir. Maintenant, on a vu ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il lui a demandé à partir. Tout a été mis en branle pour qu'il puisse partir. Mais il n'était pas question qui partent à ces conditions. Il fallait que ce soit les conditions du Paris Saint-Germain. Attention, là-dessus, il faut être complètement raccord avec aussi bien Doha que Leonardo. Leonardo n'a été que la courroie de transmission de Doha, même si c'est une image importante, c'est une image forte, mais il n'empêche qu'à un moment, ce qui a fait la différence, c'est évidemment le choix de Doha de rester comme ça, droit dans ses bottes, j'allais dire.
Alors Neymar reste au Paris Saint-Germain. L'info, bien sûr, les infos d'aujourd'hui, c'est Icardi qui est attendu à Paris cet après-midi. On a vu également le gardien de but du Real Madrid, Keylor Navas, qui est à Paris et qui à l'instant a été présenté. Ça, c'est bravo au PSG. Il est resté vraiment en santé en tout cas, que tout l'intérêt tourné autour de Neymar. Neymar qui part. Qu'est-ce qu'on va faire pour le remplacer? Non seulement Neymar reste, mais l'équipe se renforce très sérieusement.
Alors moi, j'ai plus de réponse, si tu me permets, Hervé, simplement pour dire qu'à l'instant, le Real Madrid vient d'annoncer le départ de Keylor Navas pour le Paris Saint-Germain et l'arrivée d'Alphonse Areola comme deuxième gardien derrière Courtois. Voilà, et je te passe la balle tout de suite, donc comme c'est officiel, on le donne en direct.
Oui, alors ce qui est certain,
mais,
c'est
mais c'est un top gardien qui arrive à Paris, un super gardien.
Ah bah oui, à trois Ligues des Champions.
Voilà, c'est ça. Mais là où Leonardo était fort, c'est d'arriver à gérer les trous qu'il y avait dans ce Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'on cherchait toujours le fameux gardien. On a parlé si souvent du gardien. Puisqu'Areola, il n'avait pas confiance en lui. Ben, ils sont allés chercher l'un des rares gardiens encore susceptibles d'être acheté à ce niveau de compétition. On vous dit, notre objectif, c'est la Ligue des Champions. On veut un gardien qui puisse la gagner. Bah, pour le coup, vous avez un gardien qui l'a gagné trois fois. Donc,
c'est très bien ce que c'est que de gagner une Ligue des Champions.
Voilà, lui, il sait ce que c'est gagner une Ligue des Champions.
En étant décisif,
après,
en plus.
Exactement.
Et en étant décisif. Vous avez Idrissa Gueye. Rappelez-vous ce fameux feuilleton sur le milieu défensif. On a vu que des genres de matchs, c'était quelqu'un d'intéressant. Attention, hein, je m'emballe pas, parce que je connais très bien les adversaires qu'on a eus, que le Paris Saint-Germain a eu, et ça sera complètement différent en Ligue des Champions. Mais il n'empêche, moi, j'ai une grande confiance en Idrissa Gueye. Et puis après, si vous ajoutez Icardi dans un effectif offensif déjà costaud, mais là, ça vous fait quand même une sacrée équipe. Là, ils ont été vraiment, vraiment très forts. Alors, on peut effectivement estimer que les latéraux, c'est peut-être pas du même niveau. Ça, c'est vrai. Mais à un moment, vous pouvez pas avoir deux, trois joueurs top mondial partout. Vous pouvez gagner aussi une Ligue des Champions avec quelques joueurs un peu moins bons, un peu moins forts, mais qui, dans un collectif, arrivent à hausser leur niveau de jeu. Donc, au final, ce mercato du PSG, en dépit de tout ce qu'on a pu dire, parce que c'est vrai qu'au jour le jour, ça paraissait quand même un petit peu hallucinant, tout ce qui est en train de se passer, les dernières négociations avec Barcelone. Mais maintenant qu'on arrivera ce soir à minuit, à moins que Neymar, on apprenne qu'il parte au final, et ça me paraît un peu compliqué aujourd'hui, mais sait-on jamais. Mais le mercato donc, du Paris Saint-Germain, eh ben, c'est un mercato de très haut niveau. Hein, ils ont réussi à combler les trous qu'ils pouvaient avoir et les interrogations qu'ils pouvaient avoir. Cavani, ses blessures, sa dernière année de contrat, bang, vous prenez Icardi. Rien de dire, c'est du bon boulot.
Icardi et Madame Icardi, rappelons-le, parce que elle est connue pour être
bon. C'est le problème.
Le PSG a perdu Maman Rabiot. Là, il récupère Wanda Icardi et qui paraît.
Et pas Wanda Metropolitano. Hein.
et la grande différence, c'est qu'autant autant Madame Véronique Rabiot avait un intérêt ou un poids médiatique relativement faible, étant simplement la mère de Rabiot. Alors
gros cylindre,
c'est autre chose, c'est qu'il y a une tribune. Elle a une tribune, donc si elle se met à déblatérer ou à tailler, là ça va être entendu.
Bah justement, donc Mauro Icardi attendu également effectivement pour venir soutenir cette ligne d'attaque aujourd'hui privée pour cause de blessures de Cavani et de Kylian et Mbappé. Parlons aussi Fred du mercato du Real Madrid parce que c'est quand même assez bizarre de voir le Real aussi discret. On parle plus aujourd'hui, on a beaucoup parlé plus Real côté départ que côté arrivée. Là, ça se confirme même aujourd'hui par rapport à Keylor Navas. Le départ, l'annonce avant même le début de la saison d'un futur départ de Gareth Bale, évoqué même par Zinedine Zidane. Aujourd'hui, à quoi joue le Real ?
Alors, je sais bien que tu es très très riche et que 300 millions d'euros pour toi, c'est peanuts. Enfin, un mercato discret à plus de 300 plaques, bon, c'est pas mal quand même.
C'est pas très, ça ressemble pas au style de la maison, c'est pas très bling bling quoi.
Bah, le problème du Real Madrid, c'est une question de feuilletonnage. Mmh. En fait, Zidane voulait avoir un groupe quasiment bouclé le 8 juillet dernier quand t'as repris l'entraînement. Ce qui fait que le Real Madrid a quand même fait venir, pas n'importe qui, Eden Hazard pour plus de 100 millions, mmh. Luka Jovic, Militao, Rodrigo, Ferland Mendy. Voilà, enfin, mais ils ont tous été annoncés dans les premières semaines de juin. Donc on a le sentiment que le Real
n'a rien fait depuis. Eden Hazard et puis des seconds couteaux. Excuse-moi, on parle du Real Madrid. Ben,
alors pardonne-moi de te corriger à ce niveau-là. Il y a un problème, c'est que Zidane voulait Pogba, il l'a pas eu.
Voilà.
Zidane voulait que Bale s'en aille, Bale est là. Mais sinon,
Neymar, ça, le Real rêvait de Neymar, il n'y a pas eu Neymar. Donc, permets-moi juste d'estimer que, vu les moyens dont dispose aujourd'hui le Real Madrid, le Real Madrid n'a pas pu ramener les joueurs dont rêvait son entraîneur.
Et on sait que
Paul Pogba.
Un seul. Et, il manque celui-là.
Mais on parlait aussi, et toi-même, tu en parlais, Fred, je t'écoutais sur d'autres antennes d'un intérêt réel du, et tu le disais même en tout début de cette émission, du Real Madrid à Neymar.
Oui, mais pas Zidane. Une chose, c'est Florentino Pérez.
Donc aujourd'hui, aujourd'hui on a un club à deux têtes en fait. Et ça tient jusqu'à le cas Gareth Bale qui sent pas sur la même
Attends, alors simplement pour expliquer. Le problème c'est que nous simples commentateurs, nous avons une vision de 11 titulaires. Zidane ne te parle jamais de 11 joueurs. Il parle toujours de 22, 23, 24 joueurs. L'idée de Zidane, quand il recrute Mendy, c'est pas de dire « Allez, c'est un petit remplaçant pour Marcelo ». Non, c'est l'autre joueur. Et hier, dans un match décisif déjà à Villarreal, très important, juste avant la pause internationale en plus, c'est jamais anodin, c'est Mendy qui joue. Jovic était titulaire hier. Zidane fait énormément tourner. Donc c'est vrai que le 11 n'a pas l'air bling-bling, mais quand tu regardes l'effectif, c'est un effectif très sérieux. Après, je suis d'accord avec toi. Sur Bale, ça ne s'est pas passé comme l'espérait Zidane et comme l'espérait Bale. Mais comme il se trouve que ce sont deux garçons intelligents et pragmatiques, ils ont mis de l'eau dans leur vin, comme on dit. Ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. Vous avez Zidane qui a dit, il est là, je m'en occupe, je l'utilise. Et puis Bale, qui voulait partir, etc., se dit, comme je ne peux pas partir, puisque personne ne veut payer mon énorme salaire de 15 millions nets par an en dehors du Real, je reste et je vais essayer de jouer bien. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un Zidane.
C'est le meilleur recrutement du Real Madrid cette année, c'est Gareth Bale.
Il faut reconnaître que les deux meilleurs joueurs sont Benzema et Bale, et que Bale qui devait partir, il a marqué deux buts hier, il a donné des passes décisives il y a deux semaines, il a un esprit. Aujourd'hui, on va voir si ça dure, mais il est totalement impliqué dans le Real, à tel point qu'il a fait un tweet aujourd'hui pour dire « Mon cœur au Real, quel bonheur d'être dans ce club, ça fait 6 ans aujourd'hui que j'ai signé. »
Et on le croit. Dire,
pour un type qui, un mois, disait « Je me casse. » Oui, mais sauf que, même si c'est pour la façade, il se trouve que Zidane et Bale ont décidé de s'entendre pour la cause commune. Parce que le Real en a besoin, parce que Zidane en a besoin et parce que Bale en a besoin. Parfois, on n'est pas obligé de mettre des sentiments. Parfois, le professionnalisme et les intérêts particuliers de certains peuvent être positifs pour le collectif. Et c'est la raison pour laquelle on pense ici, comme tu viens de le dire, toi en tant que madridiste, je vois que tu as le discours madridiste.
Je suis journaliste.
Le Fichaje, la bomba, c'est Gareth Bale.
La bomba Bale pour le Real Madrid. On aura l'occasion aussi de revenir rapidement, allez Fred, sur cette journée de Liga, la troisième journée. Carton plein pour l'Atlético Madrid. Déjà une remontada pour l'Atlético et puis les faux pas du Real et du Barça.
L'Atlético, seul leader, seule équipe de la Liga à avoir remporté les trois premiers matchs. Ça a été dur à chaque match, puisqu'il y a toujours eu un seul but de différence. L'Atlético était mené 2-0 au Wanda Metropolitano en première période. Et finalement, ils ont gagné 3-2 avec un but de Thomas Partey dans les dernières secondes du temps additionnel. Une équipe qui a, à mon sens, fait le meilleur recrutement en Europe, puisqu'ils ont perdu 5 joueurs majeurs et ils se sont magnifiquement bien renforcés. C'est une équipe qui, aujourd'hui, a le vent en poupe. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas démarré un petit peu trop tôt leur saison ? Parce que être déjà bien tout de suite, quand tu espères aller très loin en Ligue des Champions, attention, on va voir si ça tient le coup physiquement.
Fred,
c'est la seule petite question. Mais il faut reconnaître que le mercato a été très bon.
Juste encore une question pour toi, Fred, concernant le mercato, qui nous concerne bien sûr directement le gardien international marocain, Yacine Bounou, qui est prêté par son club Gérone, rétrogradé en deuxième division, au FC Séville. Quelles sont les chances d'abord pour Yacine Bounou de s'imposer au FC Séville ? Est-ce que Bounou est en tout cas le gardien qu'il faut pour le FC Séville ?
Yacine Bounou, dit Bono ici, est un gardien qu'il faut pour n'importe quel club de l'élite parce que c'est un super gardien. Et ça aurait été dommage de le gâcher en deuxième division dans une équipe Gérone qui est en train en plus de filer un mauvais coton. Donc c'est une très bonne nouvelle pour lui. Attention, Vaklik, le gardien tchèque, part comme titulaire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un nouvel entraîneur, c'est Julen Lopetegui, qui lui aussi était un ancien gardien. Donc on sait très bien que quand il y a un nouvel entraîneur, parfois les choses changent. Donc ça sera à lui de démontrer tous les jours à l'entraînement et peut-être en match, s'il a l'occasion, qu'il peut être le gardien titulaire de cette équipe de Séville. Attention, une équipe de Séville qui s'est très bien renforcée et qui, elle aussi, comme elle ne joue pas la Ligue des Champions, n'aura pas cette exigence-là, peut faire de belles choses en Liga.
Alors Yacine Bounou au FC Séville, du côté de Marseille, du championnat de France, on avait Super Mario l'année dernière, je sais qu'on l'a déjà faite celle-là, mon cher Hervé. Il y a Super Dario Benedetto, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, qui est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs attaquants de la Liga. En tout cas, le joueur dont avait besoin l'OM qui fêtait ses 120 ans hier.
Absolument, il y avait toujours la recherche, le fameux grand attaquant, va-t-il arriver ? Alors, on ne dit pas que c'est un grand attaquant, au sens l'un des top 10 mondiaux, mais c'était peut-être l'attaquant, le joueur en tout cas qu'il fallait à Marseille. On l'a vu à la fois buteur, il a un vrai sens du but, ça il n'y a aucun doute là-dessus, et capable aussi de participer au jeu, c'est-à-dire l'anti-Mario Balotelli, hein, restant devant et attendant les balles. Donc, pour l'instant, ça semble être la bonne pioche. On se posait des questions, vu son âge, vu son pédigré, vu son peu de référence, j'allais dire en Europe, hein, puisqu'il n'a jamais joué ici. Donc, il faut quand même s'adapter au championnat. C'est pas simple.
Vu son premier pénalty raté.
Plus le pénalty raté à Nantes, et expliquant d'ailleurs que les balles étaient un peu plus légères que les balles qu'il avait l'habitude de frapper. Donc tout ça fait qu'à un moment, il y avait inévitablement des interrogations. Force est de constater aujourd'hui qu'il a déjà répondu à quelques attentes. Alors attention, juger le recrutement d'un joueur, vous savez, en général, je dis toujours, on le sait à la fin de saison, s'il vous a porté suffisamment ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas déçu pour ses débuts, et ça c'était important. Parce que vous savez, Marseille attend tellement cet attaquant-là, qu'à partir du moment où vous avez un joueur qui vous fait gagner des matchs comme il l'a fait, ça change tout. Ça change tout déjà dans la perception du début de saison de l'OM, alors qu'ils n'ont pas été très bons. À Nice, ils n'ont pas été très bons. Ils sont imposés. Hier, contre Saint-Etienne, ils n'ont pas été très bons. Ultra bousculés en deuxième période, mais ils se sont imposés. Et tout ça change aussi bien mentalement et moralement pour les joueurs. Donc, pour l'instant, très bonne pioche de ce joueur-là. On va suivre vraiment avec beaucoup d'intérêt durant la saison.
Voilà, on va suivre avec beaucoup d'intérêt l'OM, l'Olympique de Marseille. On ne parle plus d'ailleurs du Champions Project, là, on a un petit peu mis en sourdine.
Non,
je voudrais qu'on parle d'un autre grand... C'est plus le cas aujourd'hui. Et la cata pour Monaco. Heureusement qu'ils ont vu juste aussi en recrutant Islam Slimani, l'attaquant algérien, mais ça ne marche pas à Monaco.
Ah bah là, c'est toujours pareil, il y a un recrutement tardif, il va falloir que tout le monde se mette à fonctionner, il y a des problèmes défensifs énormes, donc c'est un peu du grand n'importe quoi ce Monaco-là, pas d'équilibre, beaucoup d'attaquants achetés, peu de milieux défensifs, alors Bakayoko qui va revenir, il va falloir qu'il se remette, vous avez des défenseurs centraux un petit peu en difficulté, Glick qui a beaucoup de mal par rapport à son âge visiblement, Merson qui est plus dans le coup, Badiachile qui est un jeune joueur, donc tout ça fait que là pour le coup c'est une nouvelle fois un puzzle qu'il va falloir recomposer notre
un puzzle, Jardim. Voilà, que Jardim devra recomposer et on aura l'occasion de revenir hein, pour parler de Monaco hein, tout au long de la saison. Merci Fred, merci Hervé, j'étais vraiment très contente de vous avoir avec moi.
Plaisir.
Comme je suis tout aussi et je serai tout aussi content d'avoir l'autre moitié de l'équipe dans la seconde partie de l'après-match. Restez avec nous. Dans cette seconde partie de l'après-match, après bien sûr l'Espagne et la France, après Hervé Penaud et bien sûr notre ami Fred Hermel, la parole aux autres consultants de l'après-match. David Lortolari pour la Bundesliga allemande. Salut David, très content de te retrouver.
Salut à tous.
Bien sûr.
Moi aussi, c'est un réel plaisir.
C'est avec nous également Aurélien de Vernoy. Bonjour Aurélien. Salut Aurélien.
Bonjour Jalal, bonjour à toutes et à tous et ça fait plaisir de vous retrouver pour ce début de saison. Et d'autant plus que du côté de la Première Ligue, il se passe plein de choses.
Bien sûr, on va évoquer cette première ligue anglaise avec toi, mon cher Aurélien. On parlera aussi avec David Lortolari de la Bundesliga. Est-ce qu'on a Simone Rovera? Ciao Simone.
Ma ciao, ma oui, je suis là. Ciao, buonasera, bonsoir. Quel plaisir. Quel plaisir.
Un grand plaisir, en tout cas pour nous, de retrouver tous les membres de l'équipe. J'espère, j'en suis persuadé un petit peu quand même, que nos auditeurs ont tant de plaisir à vous retrouver et à vivre avec vous cette heure de football européen avant d'aller en Italie et bien entendu en Allemagne. Permettez-moi les amis quand même. La priorité revient à l'un des meilleurs championnats de football, en tout cas les résultats de la dernière Ligue des champions et de la Coupe, bien sûr, l'Europa League, c'est le championnat d'Angleterre. Parle-nous, mon cher Aurélien de Vernoy, des nouveautés cette année en Première Ligue.
Alors cette Première Ligue, elle est assez étonnante pour l'instant parce que tout simplement, les membres du top 6 ont pour l'instant des destinées assez différentes. Il n'y a pas de surprise en tête du championnat, c'est toujours Liverpool et Manchester City qui mènent la danse parce que c'est des équipes qui se sont à minima, ont à minima conservé leur effectif très performant de la saison dernière, voire se sont encore renforcés. On pense notamment à Manchester City et le résultat il est là, ces deux équipes qui déjà caracolent en tête, 4 victoires en 4 rencontres pour Liverpool, 3 en 4 rencontres pour Manchester City et ça va être des équipes une nouvelle fois probablement très difficiles à aller chercher cette saison. C'est très 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 impressionnant, même si Liverpool on sent un petit peu de flottement au niveau défensif, Van Dijk est un peu moins fort que la saison dernière, on a l'impression. Voilà, il y a eu des petites tensions aussi avec Sadio Mané qui n'a pas été très content d'être remplacé ce week-end. Voilà, il faudra voir un petit peu comment Jurgen Klopp gère les égos. En revanche, Manchester City, tout va bien. Riyad Mahrez est de plus en plus titulaire dans cette équipe et il fait des matchs très très intéressants dans le sillage de sa belle Coupe d'Afrique des Nations. Tout va bien pour ces deux équipes. En revanche, pour les quatre autres membres du top 6, c'est un petit peu plus compliqué. On va commencer par ceux pour qui il y a des motifs d'espoir, on va dire tout d'abord Arsenal, qui a encore des problèmes défensifs que l'on connaît depuis déjà plusieurs saisons, et l'arrivée de David Luiz n'a pas vraiment réglé ça. En revanche, en attaque, c'est très très intéressant. L'arrivée de Nicolas Pepe, l'arrivée de Ceballos ont vraiment apporté quelque chose, et on sent qu'il va y avoir des grosses, grosses possibilités offensives du côté d'Arsenal cette saison, mais il va falloir régler le problème de la défense, et ça, c'est aussi la priorité d'Unai Emery. Les problèmes défensifs, ce seront aussi la priorité de Frank Lampard du côté de Chelsea, parce que ça ne va pas du tout niveau défensif à Chelsea, alors que c'était historiquement l'un des points forts des Blues. Déjà, quasiment en moyenne, 2 buts pris par match en Première Ligue sur les 4 premières rencontres pour Chelsea. Et ça, ce n'est pas une bonne chose du tout, même si il y a des choses intéressantes là aussi en attaque. Les très bonnes intégrations de jeunes joueurs qui évoluaient en Division 2 la saison dernière, que ce soit Mason Mount qui était à Derby County avec Frank Lampard, ou Tammy Abraham qui sort d'une très grosse saison avec Aston Villa, là aussi en Championship. Là, il y a des satisfactions de ce côté, mais il faut régler ces problèmes défensifs. Kanté est blessé au milieu de terrain. Voilà, il y a encore des choses à améliorer du côté de Chelsea. Du côté de Tottenham, on sent, et là on en parle depuis longtemps, que cette équipe elle a besoin de se renouveler. Il y a eu des efforts qui ont été faits pour recruter notamment au milieu de terrain avec Ndombele et Lo Celso, mais ce n'est pas encore ça. Et puis on sent une forme quand même de lassitude, une forme d'irrégularité dans les performances des joueurs de Tottenham, probablement pas encore remis de cette défaite très dure en finale de Ligue des Champions la saison dernière. Et on sent bien que Tottenham, c'est un petit peu compliqué. Et puis vraiment l'homme malade de ce top 6, c'est Manchester United, qui a perdu son avant-centre Lukaku à l'intersaison parti à l'Inter Milan et qui n'a pas été remplacé. Pogba est complètement en perdition en ce début de saison, probablement perturbé par les rumeurs de transfert au Real Madrid. Rien ne va globalement du côté de Manchester United. Il n'y a pas vraiment d'assise défensive, le milieu de terrain est en difficulté. En attaque, il y a une seule satisfaction, c'est l'arrivée de Daniel James, l'ailier gallois de Swansea, qui fait un très bon début de saison. Mais là aussi, ça risque de ne pas durer. Et vraiment, Solskjaer va devoir trouver très, très, très rapidement des solutions, sans quoi Manchester United risque de vivre une saison difficile.
Voilà donc pour les grandes arrivées du côté de la Première Ligue anglaise. C'est aujourd'hui donc la fin du mercato en Europe. Simone, en Italie, l'Italie et la Serie A qui disent adieu à Icardi. Et comme je le disais tout à l'heure en première partie, et surtout, je pense qu'ils s'en réjouissent du côté d'Italie, à Madame Wanda Icardi. Mkhitaryan, il est annoncé, il arrive à Rome, l'international algérien Rezal à la Fiorentina. Ça a beaucoup, beaucoup bougé du côté du championnat d'Italie, qui est en train de revenir en force, le calcio, la fameuse Serie A avec les arrivé XXL côté par exemple Juventus de Delert, Lukaku à l'Inter, Sanchez aussi à l'Inter, Ribéry à la Fiorentina, Rabiot à la Juve. Voilà, donc il y a du beau monde qui arrive du côté de chez toi.
Oui, après pour l'instant on doit encore les voir, on doit voir si Romelu Lukaku va maintenir sa moyenne d'une vingtaine de buts par saison. Il y a la grosse interrogation pour rester à Milan. Est-ce que l'arrivée d'Alexis Sanchez, ça va faire revenir El Niño Maravilla qu'on avait vu en Italie, bien sûr à Udine, mais aussi l'avait fait très bien à Barcelone, plutôt bien, on peut dire peut-être même très très bien à Arsenal. Donc oui, des grosses recrues. Il faut voir si au-delà du nom, il y aura aussi une efficacité sur le terrain. La Roma, dans les derniers jours, a récupéré aussi Chris Smalling pour continuer ce que disait Aurélien sur le fait que Manchester est en train de vendre beaucoup, mais on ne sait pas qu'est-ce que va reconstruire derrière. Donc, il y a une très belle Serie A qui est en train de se mettre en place. Dernière minute, il y a aussi l'arrivée des Inter Rebic de Francfort à Milan. Donc, plusieurs joueurs de qualité, plusieurs joueurs offensifs. L'Italie qui commence avec une soixantaine de buts sur les 2 premières journées, c'est quelque chose d'historique. Depuis 70 ans, on n'avait pas une telle richesse offensive sur les 2 premières journées. Et l'espoir, c'est bien sûr de voir au-delà de la domination de la Juve en Serie A, de voir de nouveaux visages, de nouvelles équipes qui peuvent lutter pour les titres et bien sûr de bien faire en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, la base elle est très bonne. Moi, je trouve que le championnat en Italie a retrouvé des protagonistes. Une, surtout, pour moi, la meilleure recrue, ce n'est pas un joueur, c'est un entraîneur, que c'est Antonio Conte, qui a déjà mis sa main sur l'Inter, la patte à l'Inter. Et aujourd'hui, après 2 journées, Inter et Juve ont 6 points au classement avec les Torino. Donc, on a déjà une tête-à-tête.
Voilà donc, et puis il y a eu ce super match, on aura l'occasion de revenir hein, entre la Juventus et Naples. Je vais aller du côté de l'Allemagne, mais ça te concerne aussi directement, mon cher Simone Rovera. On a beaucoup, beaucoup parlé ces dernières heures de l'arrivée possible de Jérôme Boateng, le champion du monde, qui était cité avec insistance pour aller renforcer la défense de la Juve après la grave blessure du capitaine Giorgio Chiellini. Mais il semble que cette opération est capotée, David.
Absolument, Jalal, c'est tout à fait les informations qu'on a ces dernières minutes, ces dernières heures. Le FC Bayern avait très officiellement ouvert la porte pour que Boateng puisse choisir son club, puisse quitter le Bayern. Lui-même avait expliqué qu'il se comporterait en grand professionnel, mais que, si possible, il changerait de club. Ça ne va pas se faire, selon toute vraisemblance, ça ne va pas se faire dès cet été. Peut-être l'hiver prochain, il semblerait que même si le joueur Boateng était d'accord avec le clan italien, il n'y a pas eu d'accord finalement à l'arrivée entre le Bayern et la Juventus. Ce sont les échos que j'ai de mon côté. Peut-être Simone a aussi des choses plus détaillées. Et voilà, Boateng doit patienter parce que c'est toujours une réalité pour lui. Il souhaite changer de club dans la mesure où il sait que Niko Kovac, l'entraîneur au Bayern, va privilégier en titulaire Niklas Süle et les deux Français, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez en défense centrale.
Voilà, donc il n'arrivera pas, Jérôme Boateng, en tout cas pas maintenant.
Non, la petite info, c'est que c'était tellement capoté l'histoire Boateng que la Juve a même pensé à une dernière recrue presque incroyable, c'est-à-dire les retours de Mehdi Benatia. Il y a eu des discussions, après Mehdi Benatia aurait même aimé l'histoire de revenir à la Juve, vu que Massimiliano Allegri était parti, mais il y a eu un problème, c'est-à-dire que son club actuel ne voulait pas les faire partir. Donc, même s'il y a eu une dernière petite espoir, il y a eu dans la journée d'aujourd'hui pour voir revenir Mehdi Benatia à dépanner son ancien club, ça ne devrait pas se faire parce que la Juve n'a pas trouvé d'accord avec le club actuel de Mehdi Benatia.
Donc la Juve toujours intéressée par Mehdi Benatia, ils n'arrivent pas à l'oublier du côté de Turin.
Bah c'est l'amour, quand c'est un grand amour, tu l'oublies jamais, mais la Juve c'est comme ça, c'est un club qui a un grand cœur. La saison dernière, ils l'ont fait revenir à Caceres, une autre ancienne, et après Mehdi Benatia se faisait beaucoup aimer dans les vestiaires, il y avait vraiment un gros souci avec l'entraîneur Massimiliano Allegri, et quand tu dois dépanner une blessure grave d'un joueur d'expérience comme Giorgio Chiellini, c'est vrai que tu as des jeunes comme Demiral, les Turcs qui arrivaient cet été, et bien sûr De Ligt, mais un joueur qui connaît la maison, qui connaît les championnats, des grandes qualités, bah, ça fait toujours plaisir de l'avoir.
Allez, on va aller du côté de l'Allemagne. C'est la première édition de la saison de l'après-match. Il y a eu 3 journées en Bundesliga, mais voilà, ça change pas. Toujours le Bayern de Munich en rouleau compresseur, et puis Dortmund qui doit et qui a cette responsabilité, en tout cas, de maintenir un peu de suspense. Eh bien, Dortmund s'est effondré ce week-end.
Oui, alors il faut quand même être tout à fait juste, Jalal. Le Bayern a réussi le grand coup et en Allemagne on a respiré avec l'arrivée de Coutinho. Philippe et Coutinho, parce que on a bien compris que c'était le transfert clé pour donner un peu de brillance à ce championnat sur le plan de l'impact médiatique européen et mondial. Et en plus, Philippe Coutinho qui a pris le numéro 10 après Arjen Robben, en provenance donc du FC Barcelone, on va lui offrir un peu les clés du jeu, on va lui offrir de la liberté, on va lui donner, l'entraîneur Kovac va lui donner vraiment le choix de son poste, pour ainsi dire, et on va essayer de construire le jeu au Bayern, le jeu offensif, le jeu créatif, autour d'un Philippe Coutinho qui serait un joueur axial. Ça c'est le gros coup de ce mercato, mais autour Jalal quand même, malgré le faux pas de Dortmund ce week-end, je vais en dire un mot, il y a de très belles écuries et le classement aujourd'hui révèle un peu les nouvelles forces en présence en Allemagne. Bayern, oui, Dortmund sans doute avec de très belles qualités offensives et des recrues, mais aussi, et on doit en parler dès cette première émission pour prendre date pour les prochains mois, mais aussi Leverkusen qui a une très belle armada offensive et son entraîneur, l'ancien de l'Ajax, Peter Bosch fait du bon travail et ça fait un très beau spectacle et une très belle équipe qui va prétendre aux 2-3 premières places. Et le quatrième club fort qui va s'affirmer encore cette saison, peut-être même en Coupe d'Europe, c'est le RB Leipzig, qui est seul en tête pour l'instant, 3 victoires en 3 matchs, qui a recruté, et Simone faisait allusion à l'importance d'un entraîneur comme Antonio Conte en Italie. On a gardé Julian Nagelsmann en Allemagne, l'entraîneur qui était avant à Hoffenheim, qui a fait de très belles choses. Il est venu dans une équipe plus forte, le RB Leipzig, et pour l'instant, eh bien, les résultats parlent d'eux-mêmes, et le jeu du RB Leipzig va embêter beaucoup, beaucoup de monde cette saison. Du coup, je me dis que oui, il y a un Bayern encore renforcé, rajeuni, très fort, mais Dortmund plus Leipzig plus Leverkusen, ça peut nous donner un très, très joli championnat, Jalal. Ça a en tout cas très bien démarré avec... Chez nous aussi, beaucoup, beaucoup de buts, et ça, c'est une tradition.
Et un bon début de saison pour Achraf Hakimi aussi, hein, parce qu'il a été... bon, là, il marque, mais ça ne sert pas à grand-chose, mais il est en train de s'imposer.
Oui, bien sûr, c'est vrai, c'est important de le mentionner. On lui fait confiance. Il va y avoir quand même, avec le groupe élargi à Dortmund, beaucoup, beaucoup de concurrence. Et il a affaire à des joueurs expérimentés aussi à son poste, mais il est fidèle à ce qu'il sait faire, il est fidèle à, quelque part, cette espèce d'insolence positive qu'il peut avoir, très offensif, très intéressant dans la construction du jeu. C'est un très beau joueur, et les promesses qu'il a faites là dans les premières journées, j'espère qu'elles vont être confirmées par du temps de jeu et par des capacités qui vont aider Dortmund à gagner des matchs. C'est un joueur qui est très utile pour débloquer des situations sur des actions offensives. Je l'aime beaucoup, moi, sur ce plan offensif. Effectivement, ça doit aussi être un défenseur, c'est vrai. Mais c'est un joueur qui compte à présent dans les défenseurs latéraux en Allemagne. C'est tout à fait vrai, Jalal.
Achraf Hakimi attendu d'ailleurs avec les autres membres de la sélection marocaine pour les deux matchs amicaux face au Niger et contre le Burkina Faso. Je reviens du côté de l'Italie. On va terminer avec toi, mon cher Simone. Vous commencez fort quand même après 3 journées. Et déjà, le choc qu'on présente souvent comme quasi décisif en Italie entre la Juventus et Naples. Mais quel feu d'artifice, quel match juste sublimissime, 4-3, avec bien sûr ce but contre son camp du défenseur Koulibaly, le défenseur de Naples. 4-3 pour la Juventus de Turin. Naples qui a cru et qui a pensé être même revenu au score après avoir été mené au score 3-0. Finalement, la Juve l'emporte. Mais un point commun entre les deux entraîneurs, les deux n'étaient pas contents.
Non, les deux n'étaient pas contents, bien sûr. Les mots de Carlo Ancelotti ont été les plus durs, c'est-à-dire un match insuffisant, Naples n'était pas à la hauteur. Mais il a raison, parce qu'au-delà du résultat, du scénario que tu as bien résumé, 3-0, 3-3 et 4-3 définitif, la Juve pour 60 minutes, peut-être 70, 65, on dirait, a dominé son adversaire dans les jeux, dans les intentions, dans la vitesse, dans l'impact. Rien ne marchait pour Napoli, même si en deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti, qui avait abandonné son 4-2-3-1 pour un 4-4-2 plus classique, avait trouvé quelques solutions en plus. Mais la Juve était une vraie force. On voyait presque de phase des jeux, on pouvait imaginer de voir déjà à la main de Maurizio Sarri, c'est-à-dire un jeu plus rapide, avec plus d'intensité, de la vitesse, et une énorme participation de tous les joueurs à la construction des actions. Mais la Juve, aujourd'hui, a manqué un peu dans ce qu'était avec Allegri sa caractéristique clé, c'est-à-dire de savoir parfois tuer les matchs. Là, sur les 3-0, ils ont été trop tranquilles, presque sereins d'être déjà à la maison avec 3 points en plus. Et quand tu joues un choc comme ça, il ne faut jamais être tranquille. Et malheureusement, pour la Juve, ça suffit que quelques joueurs qui n'étaient pas à la hauteur des conditions physiques et mentales, et là je suis désolé de le dire, mais la plus grande recrue de l'été, Matthijs de Ligt, pour sa première en tant que titulaire au Juventus Stadium, a été catastrophique. Il était coupable sur 2 buts. Il n'était pas à la hauteur de remplacer Giorgio Chiellini. Bien sûr, il sera la plus grande promesse de l'histoire, peut-être, mais aujourd'hui, il doit encore prendre beaucoup ses repères. Donc, la Juve a eu la capacité et la force d'arriver à la dernière minute à une phase offensive. Et là, le destin, qu'est-ce qu'on peut dire? L'homme qui avait fait rêver Naples il y a 2 ans avec le but à la dernière seconde face à la Juve à Turin, oui, qui avait lancé Naples vers les rêves du titre, a fait les contre son camp plus maladroit de son histoire et laisse la Juve filer déjà 3 points d'avance et avec une victoire déterminant peut-être dans la saison, parce que tu l'as dit, Juve-Naples, ça a toujours le match du titre en Italie sur cette dernière saison, mais attention à l'Inter cette année, attention.
Attention à l'Inter, on va suivre de très très près l'Inter d'Antonio Conte. Merci beaucoup les amis, merci Simone Rovera, merci David Lortolari, et bien sûr on va vous retrouver tous ensemble ce vendredi avec Hakim Thiami. Merci aussi à Aurélien Devernois, à Fred Hermel et Hervé Penaud. C'est la fin de cette toute première édition de la saison de l'après-match. Je vous souhaite de passer un excellent début de soirée à l'écoute de nos programmes. Ciao, ciao.
Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear, so don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful. Top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know? Inside the world of beautiful people, champagne and roll of nose, breathing up some broken homes, surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who we are.
We are, we are, we are.
We are not beautiful.
Conversation here. No looks done in this. Don't ask that question here. It's just my only fear that we become
beautiful people.
Dropped up designer clothes, front row fashion shows. What you do and who you know inside the world.
Lamborghinis and they're in it hummus. The party's on, so they're heading down.